VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 s'est ouvert ce mardi à la salle des banquets de Ouagadougou, à Ouagadougou, où le tribunal militaire a été délocalisé pour la circonstance. Au total, 84 accusés sont jugés, 66 militaires et 18 civils, pour la tentative de putsch du 16 septembre 2015, où des soldats du régiment de sécurité présidentielle RSP ont tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Le RSP était la garde prétorienne de l'ex-chef d'État, chassé du pouvoir le 31 octobre 2014 après 27 ans à la tête du pays. Le coup d'État manqué a fait au total 14 morts et 270 blessés. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux présumés de la tentative de putsch, ont été acclamés par leurs partisans à leur arrivée au tribunal. Les accusés risquent tous de lourdes peines au terme de ce procès censé durer plusieurs mois. L'écrasante majorité des prévenus, dont le général Diendéré, sont inculpés entre autres d'attentats à la sûreté de l'État, meurtres, coups et blessures volontaires. Le général Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du président Blaise Compaoré, est poursuivi, lui, pour trahison sur la base de l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, dans laquelle celui-ci semble affirmer son soutien au putsch de septembre 2015. En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition citoyen pour l'innovation, CI, a été dissous lundi et 21 de ses membres condamnés le même jour à plus de 30 ans de prison. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi les médias d'État. Le parti CI sera retiré du registre des partis politiques du pays, a indiqué José Rafael Nguema, président du tribunal de Mongomo sur la télévision d'État, la TVGE. La dissolution est la sanction pour avoir commis le délit d'atteinte à la sécurité de l'État, puisque selon la loi des partis politiques, tout parti qui commet ce délit est dissous, a déclaré de son côté Anatalio Nzang, procureur général adjoint. Le parti CI avait gagné le seul siège au Parlement non acquis au pouvoir lors des élections législatives de novembre. Sur ces 147 militants poursuivis pour sédition, désordre public et atteinte à l'autorité de l'État depuis mi-février à Mongomo, fief du président Teodoro Obiang-Nguema, 21 ont été condamnés. Les autres ont été libérés. En RDC, un policier a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué un manifestant anti-Kabila à Mbandaka, ville du nord-ouest du pays, dans un procès en flagrance. L'agent de police a été condamné à la prison à vie pour avoir tiré à balles réelles et à bout portant sur Eric Boloko le dimanche 25 février à Mbandaka. C'est ce qu'a annoncé un responsable du greffe du tribunal militaire de la garnison de Mbandaka. En Afrique du Sud, la population a accueilli mardi avec prudence le premier gouvernement de transition nommé par son nouveau président, Cyril Ramaphosa. Fidèle à sa réputation d'homme de conciliation, le chef de l'État a révélé lundi sa première équipe ministérielle, marquée par des retours importants pour rassurer les investisseurs et la volonté de maintenir l'unité du parti au pouvoir, l'ANC. De Johannesburg, la correspondance de Patricia Huon.
Cyril Ramaphosa a procédé à des changements majeurs dans son cabinet ministériel, signalant une prise de distance par rapport aux récentes exclusions et nominations faites par l'ancien président Jacob Zuma. On retiendra avant tout le retour de Nhlanhla Nene aux finances. En décembre 2015, le président Zuma s'était brutalement séparé du ministre et l'avait remplacé par un député inexpérimenté, un changement qui avait fait chuter le rand, la devise sud-africaine. Autre retour important, celui de Pravin Gordhan, un ardent défenseur de la lutte anticorruption, lui aussi limogé par Jacob Zuma. Il se voit confier le portefeuille des entreprises publiques, un ministère sensible, suite à la mauvaise gestion de ces entreprises. Cependant, le nouveau cabinet compte encore beaucoup d'anciens alliés de Jacob Zuma, y compris le nouveau vice-président David Mabusa, numéro 2 de l'ANC depuis la conférence du parti en décembre. Cyril Ramaphosa a expliqué vouloir créer un équilibre entre la continuité continuité, la stabilité et la nécessité de renouveau et de reprise économique. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Conflit au Soudan du Sud, l'ONU a révoqué 46 casques bleus ghanéens en poste dans le pays. Ils sont accusés d'abus sexuels sur des femmes. Une enquête préliminaire vient d'être ouverte. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Les 46 policiers qui servaient dans le nord-ouest au sud du Soudan ont été mis en isolement avant d'être rapatriés à Juba. Une enquête a montré que ces casques bleus étaient engagés dans des activités sexuelles avec des femmes vivant sur des sites de protection des civils gérés par l'ONU. Au cours d'une conférence de presse, Stéphane Dujarric, le porte-parole des Nations Unies, a indiqué que certains policiers du contingent sont accusés d'avoir monnayé des rapports sexuels. Il a ajouté que la tolérance zéro s'appliquait au sein de la mission des Nations Unies à ce sujet. Le Ghana coopère avec l'ONU depuis le début des plaintes reçues le 8 février, a aussi indiqué le porte-parole onusien. En vertu des règles de l'ONU, il revient au pays d'origine d'un casque bleu soupçonné de mauvais comportement de le juger après une enquête menée conjointement avec les Nations Unies.
Au Nigeria, une semaine après la disparition de 110 élèves dans le nord-est du pays, le président Muhammadu Buhari a finalement reconnu lundi qu'elles ont été enlevées. Les étudiants de Dapchi ont disparu suite à une attaque attribuée au groupe Boko Haram. Et toujours au Nigeria, le président Buhari a annoncé que son gouvernement allait procéder à la vente de tous les biens volés non réclamés et que l'argent serait déposé dans le compte du Trésor national. De nombreuses propriétés volées par des fonctionnaires nigériens corrompus ont déjà été récupérées au Nigeria et dans plusieurs autres pays, y compris au Royaume-Uni, depuis l'arrivée du président Buhari au pouvoir en 2015. Comment réagissent les Nigérians? Reportage de Gilbert Tamba, le correspondant de VOA Afrique, sur place.
Attaquer la corruption au sein de l'administration était l'une des promesses majeures de campagne du président Muhammadu Buhari. L'agence anticorruption a procédé à des arrestations massives d'anciens responsables politiques soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Certains anciens ministres, gouverneurs, directeurs d'agences fédérales encore en fonction font partie de la liste noire de l'IFCC, la Commission de lutte contre les délits financiers. Problème, nombreux parmi eux sont ceux qui demandent être les propriétaires des biens qui leur ont été attribués par les différentes agences de lutte contre la corruption suite aux enquêtes ouvertes il y a plusieurs mois. La décision du président nigérian de vendre ses biens et placer cet argent dans un compte du Trésor national est saluée mais suscite des interrogations dans le pays. Hidayat Hassan est la directrice du Centre pour la démocratie et le développement, un organe qui combat la corruption.
Les rapports de plusieurs cas n'ont pas été publiés jusqu'ici parce que la volonté politique seulement ne suffit pas à combattre la corruption. Il faut aussi être transparent dans le processus. Il faut par exemple montrer le montant retracé et montrer le rapport de certains cas enquêtés.
D'autres veulent tout simplement que ces fonds soient directement investis dans le développement des infrastructures pour la création des emplois pour des milliers de jeunes Nigérians diplômés au chômage. Hamzat Laval est activiste et directeur exécutif de Code Connected Development.
Pour moi, cela n'a pas de sens pourquoi, après la vente, il va mettre ses fonds dans le compte de notre trésor national. Aujourd'hui, nous traversons une crise silencieuse. Nos infrastructures sont dans un état déplorable. Nous devons investir plus dans les infrastructures parce que vous ne pouvez pas recevoir un investissement international si vous n'avez pas d'infrastructure. Donc, je vais croire qu'il ne va pas placer ses fonds dans le compte du Trésor national.
Tout comme ces activistes qui combattent la corruption, les populations ne cachent pas également leurs inquiétudes.
Depuis tout ce temps, ils donnent des promesses qu'ils vont annoncer et publier les noms des personnes impliquées et jusqu'ici, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, si vous voulez faire quelque chose comme tel et vous voulez le faire dans le secret, cela peut aboutir à une chasse à l'homme et une sélection. Dans ce cas, la corruption qu'ils combattaient n'est pas une lutte totale.
Le Nigeria a retracé et récupéré avec succès 2,9 milliards de dollars entre mai 2015 et octobre 2017, selon la Commission des crimes économiques et financiers, IFCC. L'un des cas les plus célèbres est celui du colonel Sambo Dazuki, l'ancien conseiller national en sécurité de l'ancien président Goodluck Jonathan, accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars de l'argent voté pour l'achat d'armes destinées à la lutte contre l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.